France Inter.
25 foyers épidémiques recensés en une semaine, c'est le chiffre annoncé par le ministre de la Santé pour qui le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de propagation est opérationnel. Deux de ces cas groupés de Covid-19 concernent une centaine de salariés travaillant dans deux abattoirs, l'un dans les Côtes d'Armor à Kermenet, 6 cas positifs vendredi, 63 samedi et encore des centaines de personnes à tester. L'autre cluster se trouve dans le Loiret. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous vous trouvez donc devant l'abattoir de Fleury-les-Aubrais où à l'heure qu'il est, 34 cas positifs sont confirmés, c'est ça ?
Oui, et après cette confirmation, l'entreprise a été fermée. À peine quelques camions de livraison sont encore stationnés devant les bâtiments blancs, comme stoppés dans leur acheminement des marchandises. C'est ici que les équipes du centre hospitalier d'Orléans vont se réinstaller ce matin. Elles l'ont déjà fait hier, elles vont maintenant encore tester 240 salariés. Un travail de titan, puisqu'il faut ensuite à chaque cas positif isoler et rechercher les cas contacts entre 10 et 15 personnes en moyenne. C'est le seul moyen de mettre un terme aux chaînes de contamination. Et c'est aussi dans ce but que la maire de Fleury-les-Aubrais, Marie-Agnès Linguet, a décidé de fermer les écoles ce matin.
Moi, je ne veux pas prendre le moindre risque. Et je ne sais pas aujourd'hui si parmi les salariés qui n'ont pas encore été testés, il n'y a pas des cas de Covid avérés avec autour des cas contacts et parmi ces cas contacts, éventuellement, donc des enfants qui fréquenteraient nos groupes scolaires.
Les deux collèges de la commune ne rouvrent pas non plus alors que c'était prévu puisque nous sommes ici dans le Loiret en zone verte. Sur l'origine de la contamination, peu de pistes pour l'instant. Visiblement, le virus s'est propagé surtout dans une unité de découpe, dans un abattoir vieillissant où des travaux de modernisation ont dû être stoppés avec le confinement mi-mars. Mais la direction de Tradival, cette entreprise, assure que les salariés disposent bien de masques, de gel, que leur température est contrôlée à l'arrivée sur le site. Les contaminations pourrait aussi avoir lieu lors des pauses. C'est ce qu'évoque le directeur de l'Agence régionale de santé. Mais là-dessus, on devrait en savoir plus avec les tests qui vont être réalisés dans la journée.
Merci Faustine Calmel, envoyée spéciale de France Inter à Fleury-les-Aubrais. Des abattoirs touchés donc en France, plusieurs également aux États-Unis où un quatrième contrôleur chargé de faire respecter les règles sanitaires vient de mourir dans le Kansas. En Allemagne, plusieurs cas groupés ont jeté la suspicion sur l'ensemble de la filière et le gouvernement a donc décidé de réagir. Une première réunion est prévue ce matin, correspondance à Berlin de Romain Chevalier.
Plus de 200 personnes contaminées dans un abattoir à l'ouest du pays, près de 130 dans un autre situé au nord. Depuis plusieurs jours en Allemagne, le nombre de cas explose dans l'industrie de la viande. Des campagnes de dépistage ont donc été lancées et les mises en quarantaine se multiplient. Ce secteur qui compte environ 130 000 emplois est aujourd'hui au cœur du débat politique. Angela Merkel a d'ailleurs dénoncé les conditions de travail et de vie souvent précaires de ses employés. Des travailleurs majoritairement originaires d'Europe de l'Est, payés une misère pour des horaires extensibles et qui se retrouvent souvent à plus de 6 dans un même logement. Pour le chef du Parti Vert, cette crise sanitaire est l'occasion de réformer en profondeur la production de viande dans le pays. Un discours entendu par le gouvernement. Ce lundi matin, des discussions sont prévues pour instaurer des réglementations plus strictes.
Romain Chevalier à Berlin pour France Inter. Les chiffres publiés hier soir par la Direction générale de la Santé, avec un nombre élevé de décès en France au cours des dernières 24 heures, 483, dont 429 en EHPAD. Il ne s'agit pas d'un rebond, expliquent les autorités de santé, mais d'une mise à jour statistique. Le nombre de patients en réanimation continue lui de baisser, 2087 hier, 19 361 personnes restent hospitalisées.
Il est 7h05 et c'est jour de rentrée pour les élèves de 6e et 5e à Nièvre en zone verte uniquement.
Cette reprise concerne effectivement une grosse moitié des collèges français, environ 4000 établissements et à peine 10% des élèves de 6e et 5e. Comme pour les maternelles et les primaires la semaine dernière, les consignes sanitaires sont très strictes avec pour les collégiens le port du masque obligatoire. Audrey Chanona est principale d'un collège de La Rochelle et représentante SNP PDEN UNSA. Elle va pouvoir accueillir tous les enfants volontaires, mais en chamboulant toute l'organisation de son établissement.
Ce sont les enseignants qui vont changer de salle. Les élèves resteront dans une seule et unique salle pendant l'ensemble de la semaine. J'ai attribué une salle à une classe et on n'en changera pas dans la semaine. Donc ma classe de 6e va arriver, se laver les mains, et puis ensuite va monter dans la salle et n'en bougera plus jusqu'à redescendre à la récréation. Donc, on limite les risques de cette façon-là. Les élèves vont découvrir une école nouvelle. Quand ils vont arriver dans mon établissement, il y a de la rubalise partout. Il y a des tables de ping-pong qu'on ne pourra plus utiliser. On a enlevé les bancs et il va falloir de l'apprentissage. Alors ensuite, est-ce que les gestes barrières seront respectés? J'ai prévu que si l'élève ne respecte pas les gestes barrières, on pourra aller vers une éviction scolaire.
Un témoignage recueilli par Alexis Morel. Pour les collégiens de 4e et 3e et pour les lycéens, la décision sur une éventuelle reprise sera annoncée à la fin du mois. Décision très attendue aussi, l'organisation du second tour des municipales. L'appel des 36 maires de grandes villes à un scrutin en juin n'a pas fait consensus. L'exécutif doit trancher dans la semaine après avis du conseil scientifique alors que la date du 28 juin est évoquée. Et puis il y a toutes celles et tous ceux qui ont été élus au premier tour et qui vont enfin pouvoir entrer en fonction dans les jours qui viennent. Éric Baudeau et le nouvel édile de Saint-Sulpice-le-Guérétois en Creuse.
C'est un véritable soulagement de pouvoir enfin prendre le poste que nous ont confié les électeurs et le suffrage universel. Parce que cette urgence sanitaire a créé une situation particulièrement ambiguë dans un grand nombre de communes, avec bien souvent des rapports très difficiles entre les anciens et les nouveaux élus. Nous, personnellement, nous avons deux mois et demi devant nous et c'est simplement deux, trois jours avant que nous avons pu consulter un certain nombre de dossiers. On a été chercher aussi les informations en rencontrant les personnels, hein, par exemple pour la réouverture des écoles, mais il a fallu faire un petit peu acte de forcing pour pouvoir être mis au courant des mesures prises.
Le maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois, interrogé par Camille André de France Bleu Creuse.
Il est 7h08, la Chine va devoir rendre des comptes à l'OMS.
Les 194 pays de l'Organisation Mondiale de la Santé se réunissent virtuellement aujourd'hui pour tenter de s'accorder sur une réponse internationale face à la pandémie. Les sujets sensibles sont nombreux, la question des vaccins, on l'a vu ces derniers jours avec la polémique Sanofi, mais aussi l'origine du virus qui n'est toujours pas établie officiellement avec la Chine en ligne de mire. Dominique André est à Pékin pour France Inter.
En demandant une enquête internationale sur l'origine de la pandémie, l'Australie, soutenue par les États-Unis, s'est attirée les foudres du gouvernement chinois qui a dénoncé une politisation de la crise sanitaire. Mais l'idée a fait son chemin. Aujourd'hui, 62 pays, dont les Européens, se sont ralliés à l'initiative, mais en adoptant un ton plus conciliant avec Pékin. Leur proposition ne mentionne pas la Chine ou la ville de Wuhan et il est question d'une évaluation mondiale de la réponse au Covid-19. Dans la bataille diplomatique qui s'annonce aujourd'hui, un autre dossier brûlant s'est ajouté pour Pékin. Taïwan demande sa réintégration au sein de l'OMS en tant que membre observateur. Le politologue indépendant chinois Wu Tiang estime que la Chine ne cédera pas.
Ces derniers mois, l'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle limité. Je pense que la Chine va empêcher une enquête internationale ou qu'elle sera reportée à long terme de manière indéfinie. C'est possible aussi que l'OMS fasse elle-même une enquête en Chine, mais je ne crois pas qu'il y aura une publication des résultats. L'OMS fait face à des pressions. Taïwan veut regagner son siège dans l'organisation. Il y a beaucoup de tensions diplomatiques.
La réunion de l'OMS sera un champ de bataille, écrit aujourd'hui le Global Times, quotidien nationaliste chinois. Pékin, Dominique André, France Inter.
La Chine où 7 nouveaux cas de contamination ont été annoncés hier. L'Afrique du Sud, elle, est au pic de l'épidémie avec 1160 nouveaux cas en 24 heures. Le Japon, de son côté, est entré officiellement en récession avec un deuxième trimestre de baisse du produit intérieur brut. Côté bonne nouvelle, l'Italie entame aujourd'hui la phase 2 de son déconfinement avec la réouverture des magasins, bars et restaurants. La basilique Saint-Pierre de Rome est également rouverte. L'acropole à Athènes aussi. En France, le taux d'occupation des prisons n'avait pas été aussi bas depuis longtemps. 97% aujourd'hui en raison de la libération anticipée de plusieurs milliers de détenus pour éviter une flambée de cas. Des détenus sortis donc un peu plus tôt que prévu et qu'il a fallu accompagner. C'est le travail de l'association Wake Up Café et c'est le long format de ce 7 heures. Il est signé Corinne Audouin.
Yacine est sorti de détention provisoire le 7 avril. Il est asthmatique, sa maladie a joué en faveur de sa libération, mais cette liberté retrouvée en plein confinement a été plutôt déroutante.
Je voyais des policiers partout. Je vérifiais tout le temps si j'avais l'attestation de déplacement. Il y avait une ressemblance avec mon quotidien en prison où on circulait uniquement avec un billet de circulation. J'étais pas complètement sorti de prison.
Au bout de 3 semaines qu'il passe enfermé dans sa chambre, Yacine contacte Wake Up Café. L'association, créée en 2014, accompagne en ce moment 150 sortants de prison. Sa directrice, Clotilde Gilbert.
Sortir de prison, c'est déjà très compliqué en soi. Il faut retrouver un logement, il faut retrouver un emploi. Et évidemment, quand on sort pendant un temps de confinement, ces difficultés sont majeures. On a certains partenaires qui sont dans la grande distribution et donc qui ont eu besoin de renforts des magasiniers, des livreurs, des préparateurs de commandes. Malgré tout, on a encore une partie des personnes qui ont fait appel à Wake Up Café pour lesquelles on n'a pas de solution d'emploi actuellement.
Yacine avait une promesse d'embauche tombée à l'eau en raison du confinement. Avec 2 ateliers par jour en visioconférence et un suivi individuel, l'association l'aide sur tous les plans.
J'ai eu un entretien individuel simulé avec une responsable RH qui me prépare pour d'éventuels entretiens. Il y a une ambiance très bienveillante. On a manqué de sourire pendant longtemps et le fait de retrouver des sourires, c'est magnifique.
La semaine prochaine, Yacine va refaire son CV. Désormais, dit-il, je suis sur de bons rails.
De la prison au déconfinement, c'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Fêtez le théâtre, Agnès, le fêtez malgré tout.
C'est le pari du président de la Nuit des Molières, nuit qui devait se tenir le 11 mai dernier au Théâtre du Châtelet. La cérémonie aura bien lieu, Ilana Moyoussef, mais évidemment dans un format adapté à la crise sanitaire.
Le théâtre vit encore et il faut le montrer. C'est dans cet esprit que le président des Molières, Jean-Marc Dumonté, a tenu à organiser malgré tout une cérémonie.
Nous sommes les premiers à avoir fermé et on sait les derniers à ouvrir. Et on ne sait d'ailleurs absolument pas quand. C'est une chape de plomb qui s'est abattue sur nous. Mais j'ai pas envie qu'on se morfonde, que cette épidémie nous prive en plus de la cérémonie des Molières, qui est une fête du théâtre.
Évidemment, il ne peut pas être question d'une soirée classique.
Il n'y aura pas de maître de cérémonie comme il y avait précédemment, parce qu'il n'y a pas de public. Vous allez voir une soirée avec des séquences passées, des moments de déclaration d'amour, celle de Terzieff au théâtre, des moments de rire avec Michel Serrault. Il va y avoir évidemment les 18 prix qui vont être remis et il y aura aussi des artistes qui vont venir dans des domaines assez différents, la chanson, la danse, rythmer cette soirée.
La soirée sera enregistrée sur 2 jours au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour Jean-Marc Dumonté, elle a clairement valeur de manifeste.
Ça doit être pour nous un point de départ. Nous, on se mobilise pour se dire, on va redémarrer en septembre. C'est un objectif. On veut vraiment réveiller nos lieux culturels parce que ce sont des lieux de vie et aujourd'hui, ce sont des lieux de vide. Et ça, c'est bien ennuyeux.
La soirée sera diffusée le 23 juin en prime time sur France 2.
Et parmi les nommés, Isabelle Adjani, Léa Drucker, Philippe Torreton, Michel Villermoz, que du beau monde. Rendez-vous le 23 juin.
Merci Agnès. C'était le journal d'Agnès Soubiran.